Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour à tous. La dernière fois, après avoir vu comment un historien chinois d'aujourd'hui, l'historien de l'université de Pékin, Li Ling, relie les entretiens, nous avons abordé une autre lecture actuelle de ce texte ô combien canonique, à savoir celle d'un philosophe, Li Zihou, dont je vous rappelle le nom ici, donc Li Zihou, donc sur lequel j'aimerais aujourd'hui compléter le propos du cours précédent. Il me paraît important en effet de m'arrêter un instant sur la lecture que fait Li Zihou des entretiens de Confucius, car ce philosophe a joué un rôle important sur toute une génération de jeunes intellectuels chinois au sortir de la période maoïste et de nouveau aujourd'hui, du fait que sa notoriété, à la différence de celle de Li Ling, s'étend au-delà de la Chine continentale jusqu'à Taïwan et aux États-Unis. Nous avons vu que Li Ling et Li Zihou appartiennent à deux générations différentes. Li Zihou, qui est né donc en 1930, appartient à la génération qui avait 20 ans au moment de l'instauration de la République populaire en 1949, tandis que Li Ling, qui lui est né en 1948, c'est-à-dire pratiquement en même temps que la République populaire, appartient donc à la génération suivante qui avait 20 ans au moment de la Révolution culturelle. Mais tous les deux ont connu une Chine d'ores et déjà coupée de ses sources traditionnelles, c'est-à-dire marquée par la fameuse rupture de la modernité. Et ils ont été formés dans une même culture marxiste et maoïste. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour nous de voir justement comment ces deux intellectuels en particulier donc relisent les classiques. Alors, nous avons pu constater que, loin de renier cette culture marxiste et maoïste, ils la revendiquent comme faisant partie intégrante de leur expérience d'intellectuels, notamment face à leurs homologues de Taïwan, avec lesquels, c'est important de le signaler, la communication a été rétablie dès les années 1980, avec un pic de ce qu'on a appelé à Taïwan donc la fièvre du continent en 1987. On considère que 1987 c'est vraiment le pic de cette fièvre que les intellectuels taïwanais ont connu. Et dans ce cadre, dès 1986, les ouvrages de Li Zihou ont été republiés à Taïwan, donc en caractère traditionnel, c'est-à-dire en caractère non simplifié, puisque vous savez, j'espère, que donc en Chine populaire, c'est-à-dire en Chine continentale, l'écriture chinoise a connu un processus de simplification, donc on utilise des caractères simplifiés qui ne sont pas toujours très, très évidents à lire pour des Chinois qui, comme ceux de Taïwan, sont habitués donc aux caractères traditionnels, hein, qu'on appelle donc les caractères compliqués ou non simplifiés. Et donc, cette republication des ouvrages de Li Zihou à Taïwan lui a valu donc une très large notoriété, à tel point qu'à la fin des années 1980, il apparaissait à Taïwan comme véritablement la figure de proue des milieux philosophiques du continent. Vous vous en souvenez peut-être, je disais la dernière fois qu'il racontait en préambule de sa lecture des entretiens une conversation qu'il a eue sur la foi bouddhique avec un chauffeur de taxi à Taïwan. Donc là, on sait par cette anecdote que Li Zuo a été aussi invité donc à s'exprimer donc à Taïwan. Alors d'autre part, Li Ling et Li Zuo, donc l'historien et le philosophe, ont cet autre point commun, mais autant dire que la comparaison s'arrête là. De n'avoir pas eu d'intérêt a priori ni pour Confucius ni pour les entretiens. Ils le disent tous les deux très clairement. Nous avions vu que Li Ling y a été amené pratiquement à son corps défendant par l'engouement actuel. On l'a pratiquement contraint et forcé d'ouvrir un cours donc à l'université de Pékin sur les entretiens de Confucius sous la pression justement de cet engouement. Li Ling dit très clairement qu'il a découvert donc le nouveau confucianisme contemporain en venant à Paris. Quant à Li Zuo, alors on a vu qu'il s'est d'abord acquis une notoriété par ses études sur l'esthétique. Je parlais la dernière fois de son fameux ouvrage qui s'appelle Made Li Cheng, c'est-à-dire donc Parcours de la beauté, qui est paru en Chine au début des années 1980 et qui a immédiatement été traduit en anglais d'ailleurs, sous le titre de A Path of Beauty. Son intérêt pour les études confucéennes, ce qu'il appelle Ru Xue, semble avoir été relativement tardif et s'être confirmé lors de son exil volontaire aux États-Unis à partir de 1992. Ça, c'est un fait que je rappelais la dernière fois. Alors, cet intérêt relativement récent a probablement été ravivé au contact des zélateurs américains ou sino-américains du renouveau confucéen dont je parlais donc il y a quelques semaines, à commencer par quelqu'un comme Tu Weiming, dont je vous rappelle le nom ici. Tu Weiming que Li Zuo a eu en face de lui donc dans des colloques auxquels ils ont participé tous les deux donc aux États-Unis. Donc là vous voyez que la vie intellectuelle chinoise actuelle, je le rappelais là aussi depuis le début du cours, se passe de manière simultanée et concomitante donc de part et d'autre des rives du Pacifique. Alors donc c'est probablement donc ce contact qui peut-être aussi un affrontement donc avec ces zélateurs du nouveau confucianisme contemporain américain qui lui a fait prendre conscience d'une spécificité de la culture chinoise. Alors, spécificité, pour reprendre un terme cher à Mao Zongshan, donc ce philosophe qui, lui, a choisi donc de quitter la Chine continentale donc en 1949 pour se réfugier à Taïwan et qui, entre autres, a donné une série de conférences au début des années 1960 qui sont parus sous le titre donc de Zhongguo Zhexue de Tezhi, c'est-à-dire les spécificités donc de la philosophie chinoise. Et je vous signale au passage que cette série de conférences a été traduite en français aux éditions du CERF, et donc cette traduction française, enfin, est assez rare pour être signalée. Vous aurez remarqué que nos collègues et homologues anglo-saxons sont toujours beaucoup plus rapides que nous, mais là, il se trouve que nous avons donc cette traduction en français. Alors, cette spécificité, l'izhou, donc la voix, dans la culture confucéenne, hein, ou en chinois, donc zhou, alors peu importe qu'il s'agisse donc d'études confucéennes, zhou xue, d'écoles confucéennes, zhou jia, ou comment dire, de religions confucéennes, zhou jia. Hein, pour lui, cet ensemble de culture confucéenne constitue ce qu'il appelle la structure psychoculturelle, hein, en chinois, wenhua xinli jiegou. Donc, vous avez l'expression ici, structure psychoculturelle, qui est selon lui propre au peuple Han. Selon lui, donc, pendant des millénaires, cette structure psychoculturelle a donné forme à la vie à la fois intellectuelle et affective, aux activités et aux comportements de la société chinoise tout entière. Et donc cette imprégnation donc l'a emporté, selon lui, toujours selon lui, sur toutes les autres composantes philosophiques et religieuses, qu'elle soit taoïste ou bouddhiste, dans la mesure où cette structure s'est littéralement sédimentée. Il emploie l'expression jidian, l'expression chinoise jidian. Donc, elle s'est sédimentée dans le tissu social et psychologique jusqu'à constituer une sorte d'inconscient collectif qui rappelle fortement l'idée d'un Volksgeist, hein, d'un esprit ou génie d'un peuple, inspiré de toute évidence donc du XIXe siècle allemand. Alors évidemment, ce terme de Volksgeist n'a pas forcément laissé de très très bons souvenirs dans la mémoire européenne, hein, mais toujours est-il que la façon dont Li Zihou donc parle justement de cette structure psychoculturelle qui serait selon lui de nature confucéenne est vraiment très fortement réminiscente, hein, de ce genre de concept. Alors, ce concept de structure psychoculturelle avec sa spécificité confucéenne donc a fait florès en étant repris à l'envi en Chine par les élateurs du nationalisme culturel de tous bords, hein, qu'ils soient traditionnalistes, néoconservateurs ou bien marxistes. Hein, donc là, vous avez quelque chose qui couvre en fait une gamme assez large de positions. Alors, dans cette structure, Li Zihou distingue, alors pour le coup en bon marxiste, une superstructure et une infrastructure. Alors, la superstructure, c'est selon lui l'enseignement de Confucius et de son école, ainsi que toutes les formes et normes institutionnelles, politiques et sociales qui s'en sont réclamées tout au long de l'histoire impériale, hein, donc qui a duré plus de 2000 ans. Bref, on peut dire que pour lui, cette superstructure, ce sont donc les systèmes rationalisés de valeurs, de savoir et de pouvoir qui se sont construits sciemment, hein, au nom donc du Zhu Xue, donc de ses études confucéennes. En revanche, en dessous donc, de cette construction délibérée et rationnelle, c'est-à-dire donc dans ce qu'il appelle l'infrastructure, viennent se mêler à la rationalité des éléments affectifs, comme les émotions et les désirs, qui constituent, selon lui, proprement le fond de ce qu'il appelle la tradition culturelle ou le génie national, hein, donc ce fameux Volksgeist dont je parlais tout à l'heure. Alors, comme je le disais en fin de séance la semaine dernière, enfin de manière un petit peu précipitée, ce fond, cette infrastructure, se caractérise par une combinaison équilibrée et harmonieuse de ce que Lizzero appelle une culture du contentement, le ganwenhua. Alors, contentement, pas tellement au sens de, d'une espèce de philosophie du ça me suffit. Hein, c'est pas le contentement dans ce sens-là. C'est le fait d'être, d'être joyeux, d'être dans une perspective plutôt optimiste. Donc, d'une part, on a cette culture de la joie, si vous voulez, du contentement, et de l'autre, une rationalité pragmatique ou une raison pragmatique, en chinois, donc, shiyong li xing. Donc, pour lui, ce fond culturel chinois, hein, qui est donc à tonalité essentiellement confucéenne, hein, ce serait donc une sorte de combinaison, hein, de cette culture du contentement et de cette raison pragmatique, hein, et il a donc consacré donc à cette combinaison un ouvrage qui s'appelle donc Shiyong Li Xing Le Gan Wen Hua, c'est-à-dire donc raison pragmatique et culture du contentement, donc qui est paru en 2005. Alors, comme nous le notions déjà la dernière fois, selon Lizzero, la force et la pérennité de cette culture confucéenne réside précisément dans le fait que ce n'est ni de la pure spéculation philosophique, ni de la pure foi religieuse, mais un mélange parfaitement intégré de rationalité et d'émotionnalité, de philosophique et de religieux, ce qu'il résume dans le préambule à sa lecture des entretiens, dans la formule pan zhe xue, pan zong jiao, c'est-à-dire moitié philosophique, moitié religieux. Et c'est précisément ce mélange intégratif qui permet justement à cette culture confucéenne, selon lui, de se diffuser dans tout le corps social, depuis les élites jusqu'aux couches populaires. Là, Lizzero part justement de la constatation, qui n'est pas le seul à avoir faite d'ailleurs, qu'il n'y a pas de vie morale possible sans intégrer justement les émotions et les désirs, parce que évidemment il faut toujours tenir compte de ce qu'est la nature humaine, hein, qui n'est pas de pure raison. Alors, bien sûr, on ne saurait souligner suffisamment, hein, qu'il y a dans cette parfaite identification de la culture confucéenne avec l'identité culturelle chinoise dans son entier, une vision idéalisée, à tonalité d'ailleurs assez distinctement hegélienne, vous l'aurez perçu, et sans grand fondement historique. Alors là, nous avons une démarche qui consiste finalement à établir une relation entre deux abstractions, à savoir d'une part la culture et d'autre part la nation, qui est tout à fait propre, et là je le taquine un peu, qui est tout à fait propre à un philosophe qui cherche évidemment à prouver une thèse préétablie. Là, on part enfin d'une thèse et ensuite on cherche à l'illustrer en tirant la couverture vers soi. Ça, c'est évidemment une démarche qui se distingue tout à fait de celle de l'historien Lehling. Alors, cette démarche, Li Zihou est-ce que je vais retrouver donc cette démarche Li Zihou retrouve malgré tout dans un schéma qui se veut historique, puisque il distingue dans la tradition confucéenne quatre grandes périodes. Alors là, vous avez un tableau qui est de toute évidence extrêmement schématique, où vous avez donc un schéma proposé par le philosophe dont je viens de parler à l'instant, Mao Zongshan, donc à gauche, et à droite, vous avez le schéma donc proposé par Li Zihou. En quatre périodes, contre les trois périodes donc de Mao Zongshan. Alors, les quatre périodes dont parle Li Zihou, ce serait donc d'abord une première période autour de l'âge axial. Ici, Li Zihou reprend une théorie maintenant déjà un peu vieillie, donc proposée par initialement par le philosophe allemand Karl Jaspers, donc au siècle dernier. Donc il s'agit d'une théorie qui envisage une période qui se situe en gros entre 800 et 200 avant Jésus-Christ, pendant laquelle, selon Jaspers, donc, émerge une révolution dans la pensée de manière concomitante dans les grandes civilisations de l'Antiquité, à savoir donc, les civilisations indiennes, chinoises, hébraïques et grecques. Et donc, Li Zihou reprend à son compte cette idée d'un âge axial qui serait représenté en Chine par Confucius, qui intervient donc autour de l'an 500 avant l'ère chrétienne, puisque Confucius a vécu donc entre 551 et 479 avant Jésus-Christ. Alors, il s'agit du moment où Confucius, selon la théorie de Li Zihou, donc transforme l'antique religion chamanique en rationalité pragmatique. Et c'est en cela que Confucius illustrerait donc cet âge axial de Jaspers. Alors, la deuxième période que distingue Li Zihou se passe autour de l'an 100 avant l'ère chrétienne, avec donc la fondation de la dynastie Han, qui est en réalité la véritable fondatrice d'un nouvel ordre impérial et centralisé, et où l'enseignement confucéen intègre des éléments de tous les grands courants de pensée de l'Antiquité, à savoir notamment le moïsme, le légisme, une première forme de taoïsme et la pensée cosmologique, hein, qui tourne autour de l'idée de l'alternance du yin et du yang, hein, de la succession des cinq phases, hein, et qui se fonde aussi sur la cosmologie du Yi Jing ou du livre des mutations. Alors là, pour l'instant, je passe très très vite là-dessus. J'aurai l'occasion de revenir, hein, sur tous ces aspects, mais pour l'instant, donc nous sommes en train de parler donc de cette périodisation donc que propose Li Zihou. Donc je passe rapidement. Alors la troisième période, ce serait donc le moment qui commence avec la dynastie Song, c'est-à-dire autour de l'an 1000 de l'ère chrétienne cette fois-ci, c'est-à-dire le moment où la Chine a absorbé l'apport bouddhique venu de l'Inde, hein, pendant tout le premier millénaire de l'ère chrétienne, et où cette Chine connaît une renaissance de la pensée confucéenne qu'on a appelé donc le néo-confucianisme dans la terminologie occidentale. Et enfin, il y a dans une quatrième période, c'est-à-dire celle qui se profile aujourd'hui et que Li Zihou qualifie de post-moderne, où le double apport occidental dont nous parlions la dernière fois, à savoir d'un côté le libéralisme et de l'autre côté le marxisme, ce double apport occidental se trouve à son tour intégré dans le tout confucéen. Alors, on remarquera que Li Zihou, bien qu'il ait souffert pendant la révolution culturelle et également d'une certaine manière pendant le mouvement de 1989, hein, puisque c'est après donc les événements de Tiananmen, donc en juin 89, que Li Zihou a choisi donc de s'exiler aux États-Unis. Bon, bien qu'il ait souffert donc de ce régime, ne renonce pas donc à l'héritage maoïste, hein, lequel, que cela plaise ou non, fait désormais donc partie de l'histoire et de l'expérience vécue des Chinois du continent. Et c'est véritablement cette expérience qui, oppose les intellectuels du continent justement à ceux de Taïwan qui, eux, n'ont pas traversé donc cette expérience. Alors, cette distinction de quatre périodes, hein, que propose Li Zihou veut, de toute évidence, se démarquer par rapport au fameux schéma des trois périodes de Mao Zedong, qui lui donc représente justement ces intellectuels qui ont fui donc le communisme à Taïwan, hein, et dont donc l'enseignement a été relayé et popularisé à l'échelle mondialisée, hein, par son disciple, l'universitaire sino-américain Tu Weiming, dont nous avons aussi largement parlé précédemment. Tu Weiming, qui est donc actuellement professeur à l'université Harvard, près de Boston, aux États-Unis. Alors, selon cette périodisation, il y a donc une première époque, qui est celle du confucianisme antique, hein, avec Confucius, en gros au 5e siècle, et son héritier spirituel, à savoir Mencius, Mengzi en chinois, qui lui a vécu au 4e siècle. Alors là, il y a déjà une toute première différence avec le schéma de Li Zihou. Li Zihou, en fait, parle assez peu, hein, de l'importance de Mencius, hein, et on va comprendre pourquoi, puisque Mao Zedong donc continue sur une deuxième période. Alors là, vous voyez qu'il ne parle pas de l'époque Han pour lui. En fait, ça a peu d'importance. Et il en arrive directement donc à cette deuxième période qui pour lui est ce néo-confucianisme donc à partir des Song et qui s'enrichit tout au long donc du deuxième millénaire de l'ère chrétienne. Hein, et qui est, selon Mao Zedong, donc largement inspiré donc du courant issu de Mencius précisément. Hein. Donc c'est pour ça que pour lui donc Mencius joue un rôle extrêmement important. Et il en arrive ensuite à la troisième période, celle que Tu Yiming, donc son disciple, appelle la troisième vague, à savoir celle du nouveau confucianisme contemporain. Hein, dont les racines sont déjà dans un renouveau confucien qui se dessine au début du siècle dernier, c'est-à-dire au début du XXe siècle, hein, et qui, lui, est axé principalement sur la philosophie éthique et métaphysique. Donc là, vous voyez que nous avons en fait deux schémas soi-disant historiques, hein, qui diffèrent, mais qui sont en réalité fondés aussi sur des positions différentes. En effet, ce que Li Zihou reproche au schéma de Mao Zedong, c'est de faire valoir exclusivement une et une seule tradition à l'intérieur de l'ensemble confucéen, à savoir celle qui privilégie la spéculation philosophique et la quête exclusivement éthique de sagesse intérieure. Et alors là, vous avez donc une distinction, hein, qui est très importante justement dans la caractérisation de la tradition confucéenne, c'est-à-dire ce que Li Zihou reproche à Mao Zedong, c'est de privilégier exclusivement donc cette dimension de sagesse intérieure, hein, en chinois donc nei sheng, par rapport et au détriment d'un autre aspect tout aussi important selon Li Zihou dans la tradition confucéenne, celui de la royauté extérieure, hein, ou qu'on pourrait également appeler gouvernance extérieure, c'est-à-dire donc la gouvernance sociopolitique, en chinois waiwang, hein, donc littéralement la royauté extérieure. Alors il s'agit en fait d'une distinction qui est tout à fait classique et qui est censée donc subsumer les deux principales dimensions donc de l'héritage confucéen, c'est-à-dire que vous avez d'un côté donc la culture de soi, la culture morale de soi, hein, qui est une quête de sagesse intérieure, et d'autre part, hein, et c'est quelque chose de tout à fait indissociable et complémentaire, vous avez la recherche d'un bon mode de gouvernance sociopolitique. Là, vous avez les deux dimensions que Li Zihou justement tente de concilier justement dans son propre schéma. Et c'est la raison pour laquelle il prend le parti justement de mettre en lumière la période Han, ce deuxième temps qu'il distingue par rapport au schéma de Mao Zedong, cette période Han où la tradition confucéenne s'institutionnalise et devient le fondement d'un nouvel ordre politique, mais aussi social, puisque c'est à l'époque Han donc que se mettent en place les institutions qui vont devenir donc les institutions impériales, et notamment donc nous avons à l'époque Han donc les premiers germes du fameux système de recrutement des serviteurs de l'État par examen, hein, pas les fameux, enfin ce qui va devenir bien plus tard, donc les fameux concours mandarino, hein, pour recruter justement les meilleurs serviteurs possibles donc de l'État, par des examens qui sont eux-mêmes fondés sur la connaissance des classiques confucéens. Hein, donc là, nous avons effectivement une étape importante justement de cette tradition confucéenne. C'est donc pour Li Zihou donc une étape essentielle, faute de quoi l'enseignement confucéen reste une pure abstraction, déconnectée de toute réalité sociale et de toute évolution historique, et partant sans aucun avenir possible dans la Chine moderne et a fortiori post-moderne. Donc nous touchons là au cœur de la critique que Li Zihou adresse au nouveau confucéen contemporain inspiré donc par Mao Zedong. Et c'est aussi pourquoi il est si important aux yeux de Li Zihou de revenir aux sources textuelles des origines. Et là, je citerai donc un article qu'il a fait paraître dans la revue de son ami et compatriote du Hunan, donc Chanming, cette fameuse revue qui s'appelle Yuan Tao, donc la voix originelle, dont j'ai eu l'occasion également de vous parler, hein, où Li Zihou dit ceci. Contrairement à ce qu'affirme la théorie des trois époques, hein, donc de Mao Zedong, qui considère la philosophie des Song et des Ming, hein, c'est-à-dire donc le néo-confucianisme, comme le cœur du confucianisme, il convient, pour percevoir les spécificités de la tradition confucéenne, d'opérer un retour aux textes classiques de l'époque pré-impériale. Car, comme je l'ai souvent indiqué, la différence de la Chine par rapport à l'Occident s'enracine dans sa tradition chamanique antique, dans la rationalisation directe du chamanisme originel. Et on comprend donc maintenant pourquoi Li Zihou porte un intérêt tout particulier, bien que récent, donc, aux entretiens de Confucius. Alors, la distinction donc entre ces deux volets principaux et complémentaires du projet confucéen, à savoir donc sagesse intérieure et gouvernance extérieure, hein, est importante pour la lecture que fait Li Zihou des entretiens, parce qu'il est urgent selon lui de dissocier la dimension religieuse de la dimension politique, qui ont été inextricablement mêlées aussi bien dans la tradition confucéenne que dans l'héritage maoïste. Donc là, c'est intéressant de noter, hein, que pour un intellectuel comme Li Zihou, quand il parle de tradition, hein, il parle à la fois d'une tradition ancienne, hein, c'est-à-dire donc la tradition confucéenne, mais aussi donc d'une tradition beaucoup plus récente et une tradition moderne, hein, et qui vient de l'Occident, à savoir la tradition maoïste. Donc, pour lui, dans cette double tradition, il faut bien faire la part du religieux et du politique. Et il faut bien donc distinguer entre ce que Li Zihou appelle donc d'un côté la morale sociale publique, hein, en chinois donc shehuixinggongde, et de l'autre la morale religieuse d'ordre privé, c'est-à-dire zhongjiaoxingside. Alors, vous allez voir justement que cette distinction est très importante pour la lecture que fait Li Zihou des entretiens. Alors, la morale sociale publique relève, pour résumer, de ce que nous demande le principe de la justice et le contrat social, avec donc leur train de règles démocratiques, leur train de droits et de devoirs, tandis que la morale religieuse concerne donc la question du bien et est l'affaire de chacun. Là je résume un petit peu ce que dit Lizzero. Donc, elle est l'affaire de chacun qui reste libre de déterminer où se trouvent ses priorités en matière de choix de vie, de croyance et de conviction profonde. C'est pour ça qu'il fait la distinction entre, d'un côté, donc, une morale sociale qui serait d'ordre public, de la vie publique, et de l'autre, une morale religieuse qui serait de l'ordre de la vie privée. Mais, en même temps, bien que ces deux sortes de morale soient à distinguer, elles sont, selon Lizzero, dans un rapport d'interaction, dans la mesure où la morale sociale borde en quelque sorte la morale religieuse en la prévenant, en l'empêchant d'aller aux extrêmes, tandis que la morale religieuse influe sur la morale sociale dans le sens où elle en infléchit le style. Et là, Lizzero donc effectue un rapprochement tout à fait intéressant entre donc ces deux morales et le rapport entre deux termes clés qui apparaissent dans un passage très fameux des entretiens. Et qui se trouve donc au livre 4, section 15. Donc là, comme à mon habitude, je vous montre le texte chinois. Alors, même pour ceux d'entre vous pour qui c'est vraiment du chinois, donc ça vous permet quand même d'avoir un contact un petit peu direct et, je dirais, sensible, charnel avec... avec la manière dont se présente le texte chinois, et ça vous permet aussi de mesurer la concision de ce chinois ancien. Alors je lis ce passage, et rassurez-vous, donc j'ai toujours l'habitude de traduire après. Zi yue shen hu wu dao yi yi guan zhi. 曾子曰：“为子出，门人问曰：何谓也？”曾子曰：“夫子之道，忠恕而已矣。” Alors, nous avons ici donc un dialogue entre Zi, donc le maître, et un disciple important, donc de Confucius, qui s'appelle Zeng Zi. C'est-à-dire littéralement maître Zeng, et c'est d'ailleurs l'un des rares disciples qui apparaît dans les entretiens désigné donc par l'appellation de maître, parce que c'est quelqu'un qui a à son tour fait école apparemment. Alors donc le maître dit Shen, alors il interpelle son disciple par son nom personnel, donc il s'agit donc de maître Zeng. Ou Tao, donc mon Tao, ma voix. Alors, très littéralement, alors, vous avez ici le caractère I. Alors là, ce n'est pas la peine de connaître beaucoup de chinois. Pour voir, c'est un trait, donc c'est un. Bon, alors, donc, ma voix, c'est un par le. Je traduis très littéralement. C'est un par quoi tout est traversé. Ce mot, ce verbe quan est très souvent glosé par un autre verbe qui est tron en chinois, et qui veut dire donc le fait de passer au travers, de traverser quelque chose qui permet le passage et la communication, hein, à la manière d'une route, hein, ou d'un tunnel. Hein, c'est quelque chose qui permet de communiquer ou de passer. Hein, d'autres commentateurs y voient aussi l'image d'un fil, hein, comme le fil d'un collier, hein, qui relie toutes les perles. Alors donc, Confucius interpelle son disciple en lui disant, hein, « Ma voix, hein, c'est en fait un fil unique ou un principe unique, hein, qui traverse tout de part en part, hein, ou qui relie tout de part en part. » Alors, le disciple, maître Zeng, donc, répond « Oui ». Alors, il acquiesce, il dit « En effet ». Alors là, vous avez donc une sorte de didascalie, hein, donc, ou de scénographie. Hein, Zichu, donc le maître, sort. Hein, donc, les Menren, Wenyue, alors les autres disciples, littéralement les gens qui se pressent à la porte du maître, hein, Men, vous avez voyez un petit peu la schématisation d'une porte ici. Donc les autres disciples en profite pour demander à Maître Zeng « He wei ye ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, bon, alors le maître a cette façon de lâcher comme ça des paroles assez, succinctes et énigmatiques. Et alors, du coup, les autres disciples se rabattent donc sur le disciple en chef pour lui dire « Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» Bon. Alors, le disciple répond, le maître Zeng répond, Zeng Ziyue, donc, Fu Zhi Tao, c'est-à-dire donc le Tao, la voix du maître. Ici, il désigne Confucius par l'appellation Fu Zhi, hein, c'est-à-dire le maître. Hein. Et je vous rappelle donc que nous aurons l'occasion justement d'en reparler bientôt. Confucius, c'est donc la latinisation opéré par les missionnaires jésuites au XVIIIe siècle, donc de l'appellation Krong Fuzi, hein, c'est-à-dire donc le maître Krong. Donc la voix du maître, hein, ça n'est le R-Yi, c'est une formulation pour dire c'est tout, ça s'arrête là. Hein, c'est Zhong et Shu. Donc ces deux termes, hein, Zhong et Shu. Bien, alors l'idée l'enseignement de Confucius, de Maître Krong, donc tient tout entier dans un seul principe, il faut le préciser tout de suite, revient à plusieurs reprises dans les entretiens. Vous avez en particulier ce passage du livre 15, section 3, qui dit ceci. Hein, alors aujourd'hui, donc, nous faisons beaucoup de chinois, hein, mais nous sommes là pour ça. Il s'agit d'un autre dialogue. Là aussi, remarquez donc l'extrême concision, hein, du dialogue. Zi yue, ci ye, ru yi yu, wei duo xue, er shi zhi, zhe yu. 对曰然非于月非也于一以贯之. Donc le maître dit, cette fois-ci il s'adresse à un autre disciple qui s'appelle Zigong, et Zigong que nous avons déjà rencontré d'ailleurs, je pense, dans un autre dialogue. Ici, il l'appelle également, comme le disciple précédent, par son nom personnel, hein, Tzu. Donc, il l'interpelle en lui disant donc, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le chinois, vous croyez voir le caractère qui veut dire la femme, hein, mais ici, en fait, c'est mis pour un autre caractère qui veut dire toi, hein, c'est la deuxième personne, hein, du singulier. Donc, toi, hein, penses, hein, tu considères que je, Wei Tuo Xue, c'est-à-dire j'ai beaucoup étudié et que par conséquent je connais beaucoup de choses. Hein. Tu considères peut-être que je connais beaucoup de choses pour avoir beaucoup étudié. Et le disciple répond, Tui Yue, donc Ran, ben oui, oui, c'est bien ça que je pense. Fei Yu, ah bon, parce que c'est pas ça que je devrais penser. Fei, c'est un négatif. Hein. Et le maître reprend donc Fei Ye. Eh bien non, hein, c'est pas ça que tu devrais penser parce que Yu. Yi Yi Guan Zhi. Alors là, vous retrouvez la même formule que tout à l'heure, le Yi Yi Guan Zhi, c'est-à-dire et sous une formule encore plus ramassée, hein, moi, hein, littéralement moi Yu, hein, c'est un qui relie le tout. Hein, moi, c'est pour moi, hein, j'ai un fil unique ou un principe unique, hein, qui traverse tout mon enseignement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fil unique qui traverse tout l'enseignement de Confucius ? Alors, vous avez la réponse dans un autre passage du même livre 15, hein, la section 24, où nous avons là encore un dialogue entre le maître et toujours ce même disciple, Zi Gong. Zi Gong 问曰：“有一言而可以终身行之者乎？”子曰：“其恕乎？己所不欲，勿施于人。” Alors donc Zi Gong donc demande, hein, et donc là vous voyez que tous les dialogues en fait sont rendus au style direct, hein, c'est-à-dire donc on annonce donc qu'un personnage va prendre la parole et ensuite on a ce qu'il dit au discours direct. Bon, alors donc Zi Gong demande est-ce qu'il y a Yao Yi Yan, c'est-à-dire un mot et un seul. Hein, alors là, le Yi, première leçon de chinois. Donc un seul trait, c'est donc un. Mais ici, on insiste beaucoup sur le caractère du 1, hein, c'est-à-dire un mot et un seul qui soit capable de, pendant toute une vie, hein, zhongshen, c'est-à-dire jusqu'à la fin du corps, hein, jusqu'à la mort, de guider l'action. Hein, c'est-à-dire, littéralement, est-ce qu'il y a un mot qu'on peut mettre en pratique, hein, pendant toute une vie. Et le maître répond, hein, eh bien ce mot, qi shu hu, eh bien ce serait le mot shu, ce mot qu'on a rencontré donc dans le premier dialogue dont je parlais tout à l'heure. Alors avant de vous suggérer une traduction, il continue en disant donc ce que j'entends par ce mot shu. C'est ji suo bu yu wu shi yu ren. Donc là, c'est une formule ô combien fameuse qui est passée finalement dans la langue commune en chinois, hein, et dont je vous rappelle qu'elle a été utilisée comme l'un des slogans des Jeux olympiques, hein, de Pékin de d'août dernier. Ji suo bu yu wu shi yu ren, ça veut dire donc ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, hein, ce que tu ne désires pas pour toi-même, ne l'inflige pas aux autres, ne le fais pas aux autres. Alors ici, ce principe unique qui relie le tout, hein, c'est ce que nous appellerions donc la règle d'or. Hein. Cette règle d'or, comme vous le savez, sans doute on la trouve sous diverses formes dans de nombreuses cultures, mais l'une des formulations les plus anciennes, hein, elle se trouve justement dans les entretiens de Confucius. Hein. Vous savez tous aussi qu'on trouve aussi une sorte d'équivalent dans la Bible. Alors, cette règle d'or, c'est le fameux principe de réciprocité qui fonde la vie morale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'empêche, au fond, de faire n'importe quoi, y compris de faire du mal à autrui, notamment. Alors, ben, c'est l'idée, au fond, frappée au coin du bon sens, que autrui, dans ce cas-là, peut tout aussi bien me rendre la monnaie de ma pièce. Il peut me faire exactement la même chose. Et alors donc, si on ne veut pas s'engager dans un cercle vicieux qui empêcherait donc la vie en société, enfin qui rendrait la vie en société totalement impossible, c'est finalement de se dire que si on ne veut pas subir quelque chose d'indésirable, il faut commencer par ne pas le faire subir aux autres. C'est exactement ce que dit donc cette formule, qui est donc une formulation négative. Et si on veut une formulation positive, on peut se dire aussi que ce qu'on désire pour soi-même, on peut supposer que les autres le désirent aussi. Autrement dit, on peut se dire qu'on peut juger des désirs d'autrui en partant des siens propres. Et ça, c'est la formule positive que vous trouvez dans, au livre 6 des entretiens, section 30. C'est-à-dire, c'est soi-même en partant de son propre désir de s'établir. Li, c'est un verbe qui veut dire être debout, tenir debout ou faire tenir debout. Donc, c'est en voulant être debout soi-même que on désire justement la même chose pour les autres. Et c'est en voulant réussir pour soi-même, en voulant aboutir, parvenir à ses fins pour soi-même, que on désire la même chose pour autrui. Alors, je crois que je vais être obligée de m'arrêter ici. Je comptais terminer mon propos aujourd'hui, mais je suis obligée donc de m'arrêter ici parce que je n'ai décidément pas le temps de terminer. Ce serait dommage d'aller trop vite. Donc, d'une certaine manière, je garde le suspense pour la prochaine fois, puisque vous aurez compris donc jusqu'ici que Confucius élucide donc ce terme de shu, c'est-à-dire comme un fondement justement de la relation de réciprocité, et qui donc nous met d'emblée dans notre relation à autrui. Et donc il nous faudra voir justement ce qu'il faut entendre justement par ce doublé donc chong et shu. Donc, pour la semaine prochaine. Merci de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.